Qui va nous parler du steampunk. Alors, Caroline Dubezin-Coubet, qui est agrégée d'anglais, hein, qui a soutenu une thèse intitulée « Dragon à vapeur vers une poétique », c'est un titre magnifique, « vers une poétique de la fantasy néo-victorienne contemporaine » sous la direction de Christian Gutleben à l'Université de Côte d'Azur, c'était en 2017. Thèse dans laquelle elle abordait le rapport entre le steampunk, l'Uchronie et le post-colonialisme. Elle a travaillé sur Terry Pratchett, elle a travaillé sur Neil Gaiman, sur Sean McGuire, et elle est secrétaire adjointe du CERLI, chargée de la veille académique sur le compte Twitter. Et elle est donc ATER à l'université de Poitiers. Caroline, c'est à vous. Sur le titre est très beau, The Empire's Ride Back, Uchronie et steampunk postcolonial dans la fantasy néo-victorienne contemporaine. Avec le chapeau, c'est parfait.
J'ai juste enlevé la fin parce que ça fait suffisamment de mots compliqués.
Ouais, c'était mignon.
Oui. Ouais. Excusez pour l'affichage, c'est un problème de format, hein, pour que ça ne soit pas coupé sur les bords. Alors, dans la grande tradition de la fantasy, je vous propose de commencer avec une carte que vous trouverez à la fin du roman de steampunk incontournable La Machine à Différence, écrite par William Gibson et Bruce Sterling, et publiée en 1990, à condition bien sûr d'avoir $180 à mettre dans cette édition collector. Alors, indépendamment du prix, ce qui peut vous intriguer, c'est que le steampunk n'est pas connu comme étant une littérature de l'imaginaire qui utilise des mondes secondaires. À la place, en général, on va prendre notre monde et le déformer, le détourner autour d'un événement fondateur qui est souvent technologique. En l'occurrence, chez Gibson et Sterling, ils imaginent la production en masse de la fameuse machine à différence, créée par Charles Babbage en 1832, sur un prototype d'ordinateur, et donc du coup cette production en masse va accélérer et exacerber la révolution industrielle et changer la face du monde. Littéralement, parce que si vous regardez la carte un peu plus en détail, en rose, à cet endroit-là, voilà les États-Unis. Voilà, ils ont un petit peu rétréci au lavage. Par contre, quand on regarde le reste de la carte, en dehors de l'Occident, ça n'a pas changé grand-chose, et c'est assez représentatif du genre. Dans l'imaginaire fantaisiste, hétéroclite, complètement fou du steampunk, les colonies apparaissent trop souvent comme des points immobiles, des terrains exotiques à explorer et conquérir, plutôt que des lieux réels, vivants et habités. D'après Daniel Rich, le steampunk s'efforce d'imaginer jusqu'à quel point le passé aurait été différent si le futur était arrivé plus tôt.
Oula.
C'est très poétique, mais en général, ce dont on parle, c'est le passé, le futur du Royaume-Uni. Donc aujourd'hui, je vous propose, à la place, de nous intéresser à une multitude de passés et de futurs à travers plusieurs romans et nouvelles de steampunk postcolonial qui décentrent le point de vue, renversent la vapeur et sont de véritables machines à différence. Alors le préfixe « post » faisant référence non pas à une postérité temporelle, mais au fait de déconstruire les structures impérialistes, comme c'est expliqué dans un ouvrage incontournable dans la littérature postcoloniale, donc, auquel j'ai emprunté mon titre de communication, « The Empire Writes Back, l'Empire contre-écrit ». En fait, la communication sera plus sous le signe de Doctor Who que de Star Wars, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Alors, il faut savoir que l'Empire britannique au XIXe siècle, désigné par le terme extrêmement vague « Pax Britannica », c'est extrêmement complexe et bizarre, avec différentes sphères d'influence. Donc, dans le corpus que j'ai réuni, on va parler de colonies officielles, comme l'Inde ou la Jamaïque, mais aussi de lieux où l'occupation s'appuie sur des machinations économiques plus ou moins légales, plus ou moins claires. Donc, on a le protectorat voilé en Égypte, la concession de Shanghai, qui est créée suite à la première guerre de l'opium en 1842, donc qui devient un territoire britannique en Chine. Hawaï, au XIXe siècle, est pris entre la pression économique du Royaume-Uni et des États-Unis. Et on va aussi parler très rapidement de l'Empire colonial français avec Haïti et de l'Empire colonial belge avec le Congo, à nouveau à cause des liens avec les États-Unis, et même très très rapidement de l'Empire colonial espagnol avec les Philippines. Alors, je sais que c'est un programme extrêmement ambitieux, n'ayez pas peur, je me chronomètre. L'idée, c'est de vous donner un panorama et de débroussailler un peu un domaine qui est encore très jeune et très vivant, avec des axes assez simples. Donc, restez calme, accrochez-vous à vos chapeaux, ça va bien se passer. Du coup, dans une première partie, on va parler île et archipel, ensuite corps et esprit, et enfin frontières et histoire. Alors, les îles. On commence avec le roman The Girl from Everywhere de Heidi Heilig, où l'héroïne voyage dans le temps et l'espace grâce à des cartes. Mais comme tout système de magie intéressant, celui-ci a des restrictions, et pour obtenir une carte qui est capitale pour son histoire personnelle, elle va se retrouver à collaborer avec la Ligue Hawaïenne, une organisation secrète qui va orchestrer la chute du royaume d'Hawaï au vu de son annexion par les États-Unis en 1893. La plupart d'intrigues se passent en 1884 et tout le roman baigne dans une atmosphère crépusculaire, nostalgique, avec comme thème dominant le paradis perdu. La magie, la fantaisie existent, mais uniquement en marge de l'histoire qui apparaît, elle, comme une force inéluctable. Au contraire, The Effluent Engine, nouvelle signée par la géniale N.K. Jemisin, et publiée dans le recueil Steam-Powered Lesbian Steampunk Stories, prend comme point de départ l'indépendance d'Haïti, obtenue suite à la révolution de 1803. Dans cette uchronie, Haïti est devenu, deux générations plus tard, un symbole de succès et de résistance anti-esclavagiste, mais l'impérialisme français est toujours une menace. Du coup, l'héroïne Jessaline, qui est la fille de Toussaint Louverture, qui est un vrai personnage historique, est envoyée à la Nouvelle-Orléans pour tenter de faire fabriquer une machine qui utiliserait les effluves toxiques créés pendant la distillation du rhum, du méthane, pour en faire une force motrice et éventuellement avec des applications militaires. Du coup, c'est une histoire qui est tournée plutôt vers le futur, un nouveau pays qui est en train de se créer, mais qui est aussi en danger. Dans le roman Buffalo Soldier, situé en Jamaïque, Maurice Brodus va encore plus loin. Lui, son événement fondateur, c'est l'insurrection des Maroons au XVIIIe siècle, qui, dans cette uchronie, a débarrassé l'île de ses colonisateurs 2 siècles avant le début du roman. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'on est, mais il y a un personnage qui a lu Toni Morrison, donc on est assez bien avancé dans le XXe siècle. Enfin, dans la nouvelle A Dead Jean and Carol de Fanderson J.P. Clarke, qui se passe en 1912, ce sont carrément des djinns, des démons et des anges apparus par un portail interdimensionnel, parce que pourquoi pas, qui ont bouté les Anglais hors de l'Égypte 40 ans avant le début de l'intrigue. Le steampunk, c'est toujours plus ou moins de la fantaisie qui essaie de se faire passer pour de la science-fiction, mais disons que certaines œuvres affichent davantage le côté magie que d'autres. Alors, je sais que l'Égypte n'est pas une île, hein, je suis mauvaise en géographie, mais pas à ce point-là. Je les ai mis ensemble parce que c'est une nouvelle qui construit son monde en huis clos, en détachant complètement des préoccupations géopolitiques extérieures. Donc, c'est une sorte de détective. Donc, ces 4 œuvres, à mon avis, montrent bien pourquoi l'Uchronie, tout autant que l'Utopie, nécessite une isolation du reste du monde pour exister de façon cohérente. Et ici, Haïti, la Jamaïque et l'Égypte apparaissent comme des îlots de triomphe et de paix relative au milieu des violences coloniales. Mais justement, cette isolation, c'est aussi une marque de l'impérialisme. Donc pour vraiment faire une lecture post-coloniale, il faut voir aussi les réseaux qui relient les colonies. Donc dans cette perspective, je recommande particulièrement l'anthologie The Sea is Ours, éditée par Joyce Chung et Jamie Go, qui traite de steampunk d'Asie du Sud-Est, et j'ai particulièrement apprécié ce qui traitait des Philippines, qui a vraiment un imaginaire à la croisée des langues, des religions, des influences coloniales, pas seulement espagnoles, mais c'est extrêmement compliqué, et ils ont une mythologie très riche, avec notamment une sorte de vampire féminin qui s'appelle le Mananangal. Alors, je suis désolée si j'écorche les noms, on ne parle pas du tout tagalog. Donc, qui a la particularité de pouvoir séparer le haut et le bas de son corps, et ensuite le haut s'envole tout seul. Voilà. Donc, à l'origine, c'est un monstre qui se nourrit de nourrissons, qui est assez horrible. Mais dans les réécritures qu'on va trouver dans l'anthologie, notamment The Last As One de Alessa Anillo, cette séparation est liée justement à la violence coloniale, au fait de voir les individus coupés de leurs racines, et au lieu d'attaquer des innocents, le vampire va s'en prendre aux colonisateurs et les rendre explicitement responsables de sa monstruosité. Alors, comme je viens de vous montrer, donc, dans la littérature postcoloniale, le corps a une importance capitale, et en particulier le corps des femmes. C'est-à-dire que tout ce qui la convoitise la convoitise coloniale est tournée vers les ressources, mais aussi la ressource humaine, la main-d'œuvre. Donc du coup, vous l'aurez deviné, l'esclavage et d'autres formes d'asservissement sont un thème récurrent dans le corpus que j'ai pu réunir. Du coup, corps et esprit. Dans son premier roman steampunk Ever Fair, Missy Shaw s'est fixé un défi de taille. Elle a voulu prendre un exemple particulièrement atroce de la colonisation, donc c'est ce qu'a fait Léopold II au Congo belge au XIXe siècle, pour en faire une histoire pleine d'aventures et d'espions, d'histoires d'amour, de renversements politiques que tout le monde aurait envie de lire, et Michael Swanwick en particulier. C'était lors d'une convention, c'était un défi qu'elle s'était fixé. Elle a réussi, mais c'est vrai que quand on l'entend comme ça, ça a l'air un peu pas quelque chose qu'on a envie de lire pour le plaisir, quoi. On estime qu'entre 1895 et 1908, plus de la moitié de la population congolaise a été tuée sous le régime colonial de Léopold II. Plutôt par des maladies, mais l'image qui en est restée justement dans la mémoire et dans l'histoire, ce sont les mutilations perpétué par la milice appelée la force publique envers les esclaves qui essayaient de s'enfuir ou qui n'arrivaient pas à atteindre leur quota avec les arbres à caoutchouc. Donc, dans ce roman-là, Mississauga imagine qu'en 1895, les socialistes fabiens et démissionnaires utilisent une somme d'argent qui, historiquement, a servi à financer la London School of Economics. Donc, ils l'utilisent pour, à la place, acheter une partie du Congo belge à Léopold II, avec cette idée de fonder une utopie où les anciens esclaves, mais aussi toutes les personnes, tous les couleurs de peau, tous les genres, pardon, toutes les origines, seraient égaux et seraient le bienvenu. Ça ne marche pas tout à fait, mais en coopération avec le souverain légitime, le roi Mouadi, qui était là avant Léopold II. Parmi les immigrés, on trouve Tink, qui est un inventeur d'Asie du Sud-Est, qui va être important pour le destin du pays, puisqu'il va inventer une sorte d'énergie atomique, qui est aussi plus ou moins une magie, c'est pas très clair. Dans un premier temps, ce qu'il va faire déjà, c'est créer des prothèses pour tous les esclaves qui ont été amputés. Et ce qu'on voit sur la couverture ici, c'est a priori un personnage qui s'appelle Fundy, qui est une jeune fille au début du roman, et qui va grandir, devenir actrice, espionne. Et donc, cette image très belle donc de la main mécanique et la main organique qui tiennent la lampe, on voit la façon dont le roman n'efface pas la violence de la colonisation, mais essaie d'intégrer une technologie qui va permettre justement de soulager, de rendre une intégrité corporelle et de rendre leur fierté aussi aux personnages. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé aussi dans le roman Gunpowder Alchemy de Jamie Lin, qui se passe en Chine, notamment à Shanghai, en 1842. C'est un roman qui traite de sujets qui sont un peu tabous dans le steampunk, tout ce qui est la traite de l'opium et le rôle justement du Royaume-Uni dans les guerres de l'opium, c'est pas quelque chose dont on parle très souvent, parce que c'est particulier, enfin, c'est assez atroce. Donc il y a toute la question de la dépossession du territoire chinois par les Britanniques, mais on a aussi intégré dans le roman d'autres systèmes d'oppression et de violence qui se superposent. L'héroïne Suling et son compagnon Chang Wei vont être à un moment capturés par une bande de brigands qui sont menés par une femme, Lady Su Sanyang, qui est inspirée d'un vrai personnage historique. Et elle fait partie donc de l'ethnie des Han, ce qui fait que, étant une femme de haut rang, elle avait les pieds bandés. Et en échange de leur libération, Suling, qui est médecin, et Chang Wei, qui est ingénieur, vont créer en fait des espèces de bottes qui marchent avec un système d'aiguilles d'acupuncture qui font qu'elle va enfin pouvoir se lever, enfin guider ses hommes en étant debout et pas seulement assise, et marcher sans souffrir. Donc, j'aime bien cette idée d'une technologie qui n'est pas seulement là pour faire la guerre et changer la phase de l'histoire, mais soulager les corps, soulager les esprits aussi. Et donc il y a cette citation où elle explique la réaction des rebelles quand ils voient les femmes aux pieds bandés, la dernière phrase. They were free now walk, donc on enlève les bandages. Ignorant bastards thought our feet would simply regain their shape. Citation qui, prise hors contexte, reflète assez bien la façon dont la décolonisation a parfois pu être menée dans certains pays. Donc, dire simplement, vous êtes libre maintenant, mais sans voir la souffrance qui a été créée pendant des années, des générations et des générations. La nouvelle Working Women de Olivia Ho, qui se passe à Singapour, centre sur le personnage de Ah Hong, qui est une femme monstrueuse, à moitié automate. Et on va découvrir en fait qu'elle est faite d'un mélange de corps et de souvenirs de femmes qui ont été tuées dans une explosion d'usine, d'une usine qui s'occupait de dirigeables. Et du coup, que ces corps qui ont souffert sont appropriés par une organisation britannique pour en faire une arme. Et du coup, la nouvelle raconte comment elle va se libérer de ses propriétaires avec l'aide d'une chasseuse de tête cyborg qui s'appelle Ning, et d'une propriétaire d'un magasin de jouets qui s'appelle Kairo Nisai, qui est aussi ingénieur et qui va la réparer et la sauver. Donc on voit la souffrance des corps qui est transcendée par la solidarité, l'ingéniosité féminine. Alors comme on parle du coup cette image du golem, du monstre de Frankenstein, on peut aussi parler de Frankenstein lui-même, du créateur. Donc l'inventeur fou, c'est un grand classique de la SF et du steampunk. Et ici c'est intéressant de voir justement cette image de l'inventeur qui est motivée par autre chose que son hubris personnel. Donc toute une série de femmes racisées qui sont ingénieurs, pilotes, détectives, médecins, et qui du coup sont désirées pas pour leur corps mais pour leur esprit. Dans The Effluent Engine, Jessaline ne va pas réussir à ramener une machine ou des plans. À la place, ce qu'elle ramène, c'est la sœur de l'ingénieur qu'elle avait contacté, Eugénie, qui est deux fois plus brillante que lui et qui va créer donc cette machine qu'elle lui a demandée et qui, accessoirement, lui plaît deux fois plus. Donc c'est solidarité féminine avec plus d'affinité dans cette histoire-là. Le steampunk est souvent très inventif en ce qui concerne la technologie, mais parfois très traditionnel sur les rôles de genre. Donc c'est intéressant de voir ici un progressisme, et pas seulement un progrès, qui n'est limité que par l'imagination. Alors, l'esprit sur la matière, tout ça. En parlant de limites, Mike Persson, qui est un chercheur canadien, montre dans son excellente thèse sur le steampunk que qu'il s'agit d'un genre qui est hanté par l'idée de la frontière, une sorte de nostalgie pour une époque où on pouvait encore explorer, repousser les frontières, et donc c'est lié beaucoup à l'imaginaire du western et de la conquête de l'ouest, ce genre de choses. Alors la question, c'est comment est-ce que le steampunk postcolonial traite de ce sujet qui est idéologiquement assez chargé? Et bien en général, il le traite en faisant un pas de côté, dans timey-wimey, ce genre de choses. Donc en l'occurrence, la nouvelle The Padish of Begum's Reflection de Shweta Rayan se passe en Inde, mais pas vraiment en Inde, c'est-à-dire qu'ils imaginent une autre version du 19e où l'empire moghol est encore rayonnant, donc dépasse largement les frontières créées par les colonisateurs. Et donc l'héroïne est l'impératrice de cet empire, qui est aussi un automate et qui cache un secret et une histoire beaucoup plus complexe qu'on pourrait croire. Et justement, cette redéfinition des frontières géographiques et historiques passe aussi par une redéfinition des frontières dans la narration. C'est-à-dire que la nouvelle est construite avec des récits enchâssés et un conte qui est raconté dans trois contextes différents, à trois personnes différentes, et qui cache un secret. Je ne vais pas vous révéler, c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est vraiment... le lecteur se laisse mener par le bout du nez, tout comme l'ambassadeur français qu'elle essaye de duper. Donc c'est assez intéressant de voir dans cette lecture postcoloniale. Plus souvent, au lieu de créer un empire passé, on va se projeter vers une utopie, donc justement Ever Fair, qui est explicitement inspirée de ce qui s'est passé, de la création du Liberia en 1822. Ils ont essayé de faire un peu mieux, ça réussit jusqu'à un certain point, sauf que pendant la Première Guerre mondiale, ils décident qu'ils ne veulent pas s'allier du même côté que la Belgique. Du coup, forcément, ils ne gagnent pas la Première Guerre mondiale, et à partir de là, tout finit par s'effondrer. Donc, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que c'est plus ou moins la chronique d'un échec annoncé au niveau politique. Mais ça finit justement aussi sur un succès, une fin heureuse sur le plan personnel, puisqu'on a donc une histoire d'amour entre Lisette et Daisy, qui étaient respectivement la maîtresse et la femme d'un socialiste fabien, et elles ont une histoire très compliquée, et à la fin, elles finissent ensemble. Et on est heureux. Excusez-moi. Chapeau romantique sur autre chose. Alors, sinon, dans l'anthologie Steampunk, qui traite de steampunk africain et afro-américain, on va voir plusieurs pays créés aux États-Unis pour les anciens esclaves suite à la guerre de sécession. Donc, notamment le pays Fredonia, où Frederick Douglass est président et Harriet Tubman est vice-présidente. Why not? Donc, dans la nouvelle The Delivery de Milton Davis. Et sinon, Delaney, dans une autre nouvelle, donc à nouveau en hommage à une grande figure de l'abolitionnisme du 19e siècle. Mais à chaque fois, l'image de la frontière qui est reflétée ici, ce n'est pas la frontière qu'on repousse, qu'on va conquérir, c'est quelque chose de fragile qu'il faut protéger, et en général, ils ne peuvent compter que sur leur propre ingéniosité technologique et leur solidarité dans la communauté. Donc on a cette image d'une poussée en avant parce que l'esclavage, c'est aussi la rupture avec le passé, avec la terre ancestrale. Donc on ne peut pas avoir le retour en arrière qu'on va avoir en fantasy. Souvent, c'est un luxe pour le steampunk postcolonial qui est toujours obligé de regarder en avant, de se recréer une histoire, des traditions et du lien. Alors, dernier exemple dans cette partie. Donc c'est à nouveau Maurice Brodus avec Buffalo Soldier, où le personnage principal, Desmond Coke, qui est donc originaire de Jamaïque, va fuir à travers ce qui n'est pas les États-Unis, mais le territoire américain, et finalement va trouver refuge auprès d'Amérindiens, donc ce qui lui permet de redéfinir le terme Buffalo Soldier, qui en fait, historiquement, donc c'était un régiment de cavalerie constitué uniquement d'Afro-Américains, et qui sont apparemment responsables de massacres à l'encontre des Amérindiens. Et du coup, dans cette réécriture, au contraire, ça devient une histoire de solidarité. Donc, il trouve asile auprès des Amérindiens. Et donc, il est en fuite parce qu'il essaie de protéger un étrange garçon aux yeux verts, Lige, que tout le monde veut. Cet enfant, c'est une arme, c'est une sorte de messie. C'est le clone d'un roi du passé qui a été créé dans un utérus de verre. C'est extrêmement bizarre, cette partie-là. En gros, il a des pouvoirs un peu surnaturels. Et son pouvoir le plus intéressant, c'est qu'il suscite des histoires. C'est-à-dire que partout où ils vont aller, que ce soit auprès d'alliés ou d'ennemis, les gens ne peuvent pas s'empêcher de raconter des histoires à cet enfant. Des histoires qui ne sont souvent pas terminées. Donc on a cette espèce de mosaïque de petits récits qui va s'ancrer sur le fond de la grande histoire uchronique dans cette version-là. Et en fait, tout ce corpus, ce sont les petites histoires qui viennent réparer les crimes de la grande histoire et donner une voix à ceux que l'impérialisme a étouffés. Je disais donc l'esclavage, la perte du foyer de la terre natale, et le roman se termine sur cette très belle phrase, très belle conclusion de Lige, qui dit à Desmond « You are my home, you keep my stories safe ». Alors, pour conclure, je sais que ça faisait beaucoup de noms, beaucoup de dates, beaucoup de concepts en 20 minutes, donc j'espère que vous n'êtes pas complètement perdus, et si vous voulez plus de détails sur des choses, si vous voulez feuilleter mes belles anthologies, je vous en parlerai en long, en large et en travers à la pause, ne vous inquiétez pas, j'aime beaucoup ce que je fais, même si c'est extrêmement compliqué, je sais. Alors, j'avais pris le parti pour cette communication de travailler uniquement avec des œuvres d'auteurs racisés. Après, en dehors de Shweta Narayan, qui est ici, ils sont quand même tous américains, donc c'est plus ou moins inévitable quand on travaille en littérature de l'imaginaire anglophone. Après, justement, avec les anthologies, j'ai pu ouvrir un petit peu mon champ de lecture, donc j'essaie de voir justement... qu'est-ce qui change quand on n'est pas justement avec des auteurs américains. Moi, ce qui m'a le plus intéressé dans ce corpus, c'est la dimension intersectionnelle. Le fait, donc c'est ça qui pour moi en fait des vraies machines à différence, c'est que toutes ces femmes racisées qui sont guerrières, qui sont inventrices, chefs d'État, espionnes, détectives, beaucoup de femmes qui sont aussi handicapées du coup, avec l'histoire de mutilation, et beaucoup de couples de femmes qui sont heureuses, où personne ne meurt et où ça finit bien. Franchement, ça fait plaisir pour moi. Alors, ceux qui lisent du steampunk savent que c'est un genre qui a beaucoup de sous-sous-sous-genres, qui devient un peu absurde dans les choses comme le steampunk, le manorpunk, le dieselpunk, le boilerpunk, salvagepunk, atompunk, la sci fantasy. C'est vraiment un peu absurde, mais je vais quand même vous en rajouter un dernier en ouverture, donc, que j'ai découvert il y a quelques mois, qui s'appelle le hopepunk. Et l'idée de base de ce genre, c'est que l'espoir, la compassion est une force politique. Et effectivement, ce que je vous ai parlé, il y a beaucoup de sujets extrêmement durs, extrêmement violents. Et pourtant, à lire tout ça, ça donne pas envie de se cacher sous son lit comme la plupart des fictions dystopiques. C'est vraiment des fictions qui donnent de l'espoir dans le futur, enfin le futur dans le passé, parce que quand même le 19e, il faut suivre. Et donc ça montre quand même un renouvellement de l'imaginaire du 19e siècle dans le cinéma. Alors j'ai dit que c'était pas sur Star Wars ma communication, mais je vais quand même finir avec une citation de Rogue One. We have hope. Rebellions are built on hope. Merci.
Bon. Eh bien, merci beaucoup. Ça a été assez festivalesque, en fait. Hein, avec, Non, mais c'est vrai.
C'est positif.
Oui, alors bon, je vais commencer comme ça. Effectivement, tu parlais de lecture postcoloniale, mais en fait, on est dans une écriture postcoloniale. Très clairement. Oui, enfin, elle renvoie, mais en tout état de cause. Et oui, là, c'est terrible. Hein, c'est là qu'on paye la beauté de la salle, mais... c'est très agréable, mais alors c'est vrai que là-bas on n'entend rien. Hein. Ça, c'est
ok, je vais parler plus fort.
Dans le micro. Voilà. Oui, donc ma première question pour lancer les interventions, ça va être simplement sur l'utilisation par ces auteurs dont tu nous parles, l'utilisation précisément de quelque chose de remarquable dans le steampunk. Ça permet de réparer les blessures de l'histoire, le steampunk. Hein, bon. Et on voit bien, enfin, d'ailleurs c'est comme ça que tu termines, c'est-à-dire qu'on a un genre qui se met au service d'une cause. Le genre n'a pas été fait pour ça, hein, pas particulièrement, mais là il est réemployé pour ça. Ça commence à quel moment exactement, enfin, ces réécritures-là, des réécritures qui vont prendre le monde sur des bases d'analyse postcoloniale et on va reconstituer un 19e siècle sans les blessures du 20e, en quelque sorte. Ou avec, mais en les tournant autrement.
D'après ce que j'ai pu voir dans mon corpus, peut-être que je me trompais, c'est quasiment que des œuvres qui datent du 21e siècle, voire qui datent des 5
des années 2010.
C'est vraiment extrêmement récent, ce développement, cette évolution dans le steampunk. C'est un intérêt pour le steampunk postcolonial. D'accord. D'après, c'est aussi parce qu'il y a des chercheurs qui commencent à s'y intéresser, des gens comme Diana Fo, Jamie Go, qui est l'éditrice... qui vont faire ressortir des textes, mais c'est récent, c'est très récent.
Oui, non, mais oui, ça correspond à des choses qu'on voit ailleurs, vraiment qui sont spécifiques à maintenant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, sans micro, c'est pas la peine d'espérer. Hein. Parce qu'évidemment, ce qui est vrai dans un sens est vrai dans l'autre. On n'a aucune chance de vous entendre. Pas de questions?
Bah oui, je sais.
Pourquoi j'aurais... Ah oui, c'est elle, c'est sa faute, hein. Si, quand même. On y va. Je l'ai pas vu.
Non, mais ce que je vois pas, je vois pas.
Bon, il est prêt. On va faire comme ça. Alors, Florian.
C'est bon, ça m'a une question, remarque. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ce qu'on a beaucoup, c'est la capacité non seulement à évoquer des voies minoritaires, mais à croiser les voies minoritaires, à avoir le seul une minorité ethnique, mais une minorité sexuelle et handicapée, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et du coup, je vais poser la question que sinon, que d'autres vont poser là. Non, la question, c'est est-ce que ces auteurs, comment est-ce qu'ils parlent de leurs œuvres? Est-ce que tu sais ce qu'ils en parlent?
Oui, c'est des manifestes. Vas-y, toi.
Ça va dépendre un peu des œuvres. Alors, honnêtement, The Sea is Ours, j'aurais bien aimé qu'il y ait à chaque fois une notice accompagnant l'œuvre. Parce que c'est vrai que parfois, c'est des références à des événements historiques et des éléments culturels que moi, je ne connais pas parce que je ne suis pas spécialiste des sujets, ce genre de choses. Donc là, ça va dépendre un peu. Nisi Scholl, elle parle beaucoup de comment elle a créé le roman, de pourquoi elle a créé le roman. Et on a cette notice au début où elle explique, elle donne les chiffres de tous les gens qui sont morts, de comment ça a été créé, de ce qu'elle voulait faire, trouver. Elle dit que pour le steampunk, c'est un genre qui fonctionne souvent comme une chronie et qui va montrer comment des petits changements sur ce qui s'est vraiment passé peuvent créer des changements majeurs dans l'histoire. Et ce qu'elle voulait donner, ce qu'elle voulait faire dans ce roman, c'était donner justement aussi aux personnes racisées cette technologie merveilleuse, ce côté fantasme, ce côté enfantin qu'on a dans le steampunk, elle voulait qu'eux aussi puissent l'avoir. Donc elle a fait quelque chose d'atroce au niveau colonial, elle a fait quelque chose où on pouvait rêver, on pouvait espérer. Et elle leur dit, j'aime croire que si quelque chose, une ou deux choses avaient changé, ils auraient pu eux aussi avoir cette assise technologique et ce rêve. Et elle dit, j'aime, en tout cas dans mon roman, ils le font. Elle dit, bien sûr, le steampunk est une forme de fiction, de fantaisie, et ces événements ne se sont jamais passés, mais elles auraient pu se passer. Et elles jouent beaucoup sur les mots. Celui-là, à nouveau, il n'y avait pas vraiment de notice, donc je n'ai pas vraiment de contexte pour cela. C'est vrai que de façon générale, je me suis référée à des œuvres extérieures. Donc les auteurs eux-mêmes, il y a assez peu de discours qui est fait, à part Nisi Scholl. N.K. Jemisin avait écrit sa nouvelle justement à cause de ce qui s'était passé à Haïti. Ça faisait partie du mouvement A Story for Haiti où ils écrivaient des histoires et ils les mettaient aux enchères. Donc on a quand même une vision de politisation aussi dans la façon dont les histoires sont créées. Mais dans l'ensemble, les anthologies notamment, c'était en général les éditeurs qui ont dit il n'y a pas assez d'histoires pour les personnes racisées, par les personnes racisées, dans l'imaginaire du steampunk. Qu'à cela ne tienne, on va les écrire.
Oui, après se pose une autre question à la limite qui est celle de l'audience. Quel tirage, quelle réception
Honnêtement, c'est aussi une question que je me suis posée. Alors quand j'ai vu celui-là, je me suis retrouvée à faire un live tweet sur Twitter parce que c'est plus ou moins mon modus operandi. Et j'ai eu des réactions extrêmement positives et un peu étonnées de la part des auteurs. Donc je pense pas qu'il y ait eu une presse énorme pour ces œuvres-là. Après, Everfair de Nisi Scholl, ça a été un gros succès. Enfin, ça s'est plutôt bien vendu et il y a beaucoup de commentaires positifs. En général, c'est des revues qui sont très, des reviews qui sont très favorables, mais c'est vrai que c'est des œuvres que j'ai commencé à découvrir pendant ma thèse, alors c'est quand même le sujet que j'ai étudié. Et si on ne regarde pas, je ne pense pas qu'on les trouve comme ça. Ce n'est pas des choses qui vont être mises en avant, surtout pas en France.
Maureen, pardon.
A priori, aucun n'est encore traduit. Dans ce que j'ai étudié. C'est très récent, donc comme elles sont des éditeurs qui ne sont pas hyper connus par ailleurs dans les traductions françaises. Désolée.
Maureen ? Non, pitié !
J'entends rien.
On n'a rien.
Vas-y, vas-y, vas-y.
On n'entend rien.
Merci beaucoup.
On t'entend pas.
Ah mais viens là, de poser.
Viens avec nous.
Ok. Il me semble que vous êtes pas au début de sa carrière, elle ne voulait pas du tout parler de cette idée de préparer les honneurs du soir. Et en fait, c'est comme ça qu'elle a gagné les tribunaux, etc. Et maintenant, c'est le cas de Lance, apparemment. Le corpus que vous avez dit, ça serait la contre-sens d'œuvres qui vit dans un public beaucoup plus large. Vous montrez actuellement, je ne sais pas si vous voyez la réalité, il est question en ce moment que les producteurs de Game of Thrones une série fassent sur propre Netflix, une série qui serait une chronique sur si les États-Unis avaient apporté la guerre. Il y a évidemment provoqué le réfugié compréhensible, et ceci, tu ne vois pas quand tu es dans une série. Cette idée d'une littérature moins connue qui va à contre-sens d'un mouvement porté par des œuvres plus populaires.
Ouais, je pense que c'est carrément une dimension importante pour ce corpus. Donc effectivement, je me semble que N.K. Jemisin faisait partie de ceux qui ont levé les boufliers. C'était le hashtag No Confederate, parce que quand on voit ce qu'ils font avec les personnages racisés dans Game of Thrones, on n'a pas trop envie qu'ils parlent, que eux, ils parlent d'un monde où l'esclavage existe encore. Il y a vraiment cette complaisance de faire souffrir les personnes racisées, et on l'a suffisamment vu, et on peut voir autre chose. La plupart de ces œuvres s'inscrivent plus ou moins dans le mouvement Own Voices, qui a cette idée que c'est les auteurs qui partagent une identité minoritaire qui vont écrire cette identité, et pas laisser juste les hommes blancs cisgenres parler toujours pour le reste du monde. C'est un peu l'idée de base. Après, à nouveau, j'ai du mal à mesurer si ça suit la popularité croissante d'un genre. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est plus populaire, mais c'est aussi parce que je suis un peu dans ma bulle de je découvre ces œuvres et je les trouve géniales et que j'en parle. C'est vraiment difficile à mesurer, et ça c'est des questions plutôt pour les sociologues, je crois. Je sais que pour cette nouvelle, N.K. Jemisin, elle a été contactée donc, par Judel Printerhoof, qui était l'éditrice de l'anthologie, et elle dit « Je ne sais pas pourquoi elle m'a contactée, parce que je ne suis pas lesbienne et je n'ai jamais écrit du steampunk, mais j'avais une idée et j'ai décidé de l'écrire. » Donc, je ne sais pas si c'était de la com ou si elle est revenue un peu sur son idée. Et Missy Scholl n'avait jamais écrit de steampunk avant, et justement, elle l'a fait parce qu'elle trouvait qu'il y avait un manque là-dedans.